Écologie et création, enjeux et perspectives pour le christianisme aujourd'hui. C'est le titre de l'ouvrage que Mgr Marc Stinger, évêque de Troyes et président de Pax Christi France, a publié à la fin de l'année passée. Il revient pour nous sur ce rapport entre la foi et l'écologie et nous dit comment l'Église se positionne aujourd'hui par rapport à ce thème.
C'est à la fois nouveau et pas nouveau dans le sens que l'Église s'est toujours souciée de la nature. Je vous citerai les psaumes tels que le Christ les a priés, la louange qu'il a fait de la création. Donc ça c'était avant même que l'Église n'existe, déjà la nature avait bien sa place. Alors au Moyen-Âge, il y a eu François d'Assise qui a été nommé par Jean-Paul II, patron des écologistes, pour dire qu'il y a toujours eu des personnes qui sont préoccupées de la nature. Alors on a accusé l'Église d'être anti-environnement à cause d'une interprétation d'un verset de la Genèse quand Dieu dit « soumettez la terre et dominez la terre », alors que c'est une méconnaissance du vrai sens de ce verset de la Bible. Du coup, on a considéré que les chrétiens en général, et puis l'Église en particulier, étaient plutôt ennemis de la nature. Mais si vous regardez alors plus récemment, les papes, à commencer par Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, enfin, ont tous fait des déclarations remarquables sur les questions d'environnement.
Dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, le primat de la personne humaine est un point essentiel. Affirmer l'importance de l'écologie risque par conséquent d'introduire des conflits. Mgr Stinger nous explique l'articulation de ces deux points.
Le primat de la personne humaine intègre précisément l'attention à la nature, parce que l'homme n'existe pas sans ce grand cadeau que Dieu lui a fait de la création, des ressources de cette nature. Donc le primat de la personne ne veut en aucune manière dire que la nature est au service de l'homme. Le primat de la personne implique que l'homme et la nature soient dans une relation bien articulée, où l'homme respecte la nature d'une part, et d'autre part, à l'usage des richesses qui lui sont proposées pour leur véritable fin, c'est-à-dire ne détourne pas la nature de sa fin. Je prends un exemple. Il y a des ressources naturelles dans la terre. La terre produit. Elle produit pour nourrir l'homme et pour nourrir tous les hommes. Aujourd'hui, on détourne une partie de la capacité productive de la terre pour faire du carburant, parce que l'homme est en manque de carburant. Mais pendant ce temps, on crée des situations de famine, on laisse des pans entiers de la société humaine sans les nourritures suffisantes. Ben là, c'est une manière de dire l'homme détourne la nature de sa faim. Et je crois que la personne ne se respecte pas quand elle ne respecte pas la nature.
Lors des Journées mondiales de la jeunesse de Sydney, le pape disait
« My dear friends, God's creation is one. »
Chers amis, la création de Dieu est unique et elle est bonne. Les préoccupations au sujet de la non-violence, du développement durable, de la justice et de la paix, de la protection de notre environnement sont d'une importance vitale pour l'humanité.
Et le pape complétait en relevant l'importance de la personne humaine, en parlant même, quelques mois plus tard, d'écologie de l'homme. Mgr Stinger revient sur cette nouveauté introduite par Benoît XVI.
Il a dit quelque chose qui pour moi est un peu nouveau et original. Il a dit que l'environnement ne devait pas se réduire à la nature au sens strict du terme, si vous voulez. Il est plutôt pour une conception biblique de l'environnement qui est la création. Et la création, c'est l'homme et la nature. Et pour moi, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. L'un et l'autre sont indéfectiblement liés. Il faut une écologie humaine, une écologie sociale, en même temps qu'il faut une écologie environnementale, naturelle. Et je crois que c'est là-dessus peut-être que Benoît XVI a une pensée particulièrement neuve et juste pour moi. C'est ce souci que nous devons avoir de l'équilibre, de l'équilibre dans la relation entre l'homme et les autres hommes et tout ce qui les environne.
Élargir l'environnement, c'est aussi ce que propose le concept de développement durable. Deux termes souvent mis en parallèle et pourtant très différents.
L'environnement, c'est une affirmation un peu globale, quoi. Ça définit ce qui nous environne, ce qui est autour de nous. C'est une manière très générale de parler de la relation de l'homme à la nature. Pourquoi c'est général? Parce que ça ne dit pas la destination des choses. L'environnement dit l'existence des choses, mais pas leur destination. Tandis que quand on parle de développement durable, on parle d'une destination, on parle d'un projet. Et je crois qu'on parle là beaucoup plus de l'homme, de la personne humaine, que quand on parle d'environnement. Développement durable, c'est quoi? C'est un projet de société dans lequel, eh bien, non seulement nous, mais ceux qui viennent après nous, non seulement nous, mais les hommes de partout, puissent trouver suffisamment dans les ressources de la nature pour eux. Ce qui veut dire que le développement durable implique qu'on n'épuise pas des ressources de la nature. Donc on ne demande pas la nature plus qu'elle ne peut donner et qu'on lui laisse la possibilité de se renouveler pour que, précisément, ce développement qui est la destinée de l'homme, que ce développement il puisse se poursuivre, que ça dure. Et donc, d'un côté, on décrit un état, de l'autre côté, on parle d'un projet qui implique l'homme, qui lui demande d'avoir conscience de ce que la nature lui donne et de ce qu'elle peut lui donner. C'est un principe très dynamique et je crois que, pour moi, la seule chose qui peut nous intéresser, nous chrétiens, c'est le développement durable. L'environnement, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
Respecter la nature, comme le rappelle Mgr Stinger, c'est à la portée de toute personne, dans chaque acte qu'elle pose.
Ça commence par des gestes simples. Vous pouvez agir en faveur du développement à partir du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez. Et il ne faut pas dire ça n'a pas de portée sur les grands équilibres. Chaque acte, dès lors qu'il est multiplié par le nombre de chrétiens qui existent dans le monde, sans compter les autres, chaque acte a donc, par le fait même, une grande portée. Alors, quand je dis ce sont des gestes tout simples, c'est une meilleure relation au bien qui nous permet d'avoir une vie agréable. Ça, c'est la première chose. Je prends l'électricité. C'est très bien, on a de la chance d'en avoir, mais on peut aussi la gaspiller si on ne fait pas attention à l'usage qu'on en a. Et je crois que ce que le chrétien peut faire en premier lieu, c'est précisément de revoir sa relation à ses biens élémentaires. La deuxième chose, c'est se mettre ensemble. Il y a une prise de conscience qui a besoin d'être faite. Certains l'ont faite, d'autres l'ont moins faite. C'est seulement ensemble que cette prise de conscience pourra se multiplier et toucher tous les cœurs. Troisièmement, il y a un devoir d'information. On entend de temps en temps dire par des spécialistes que le monde va à sa perte. Alors certains vont agir par peur, mais je ne suis pas sûr que ce soit une attitude digne de l'être humain, d'avoir peur. Avant d'avoir peur, il faut savoir de quoi on a peur et pourquoi on a peur, ce qui veut dire qu'on a un devoir d'information. Donc être inquiet n'est pas mauvais, mais à condition que ça nous aide à réagir. L'inquiétude dynamique qui fait réagir est bonne. Il y a quelque chose d'un peu fondamental, et ça concerne chacun. L'avenir de l'humanité, le développement durable ne sera pas assuré si il n'y a pas une conversion profonde du cœur de l'homme. Pour que ça devienne un cœur plus humble, plus simple, plus frugal, le cœur de celui qui met sa confiance en Dieu et celui qui ne place pas l'essentiel de sa vie dans la consommation effrénée de biens.